Georges Beaune. Trottin de Paris. Chapitre 1er. Ce soir doux de novembre, le soleil enveloppait Paris d'une lumière d'or. Par les boulevards, la foule s'écoulait, nonchalante, avec une rumeur de rivière entravée de rochers. À travers la foule, Sébastien Lampéric errait au gré de son caprice, provoquant de son œil hardi les femmes, les coudoyant sans vergogne. Depuis une demi-heure, il était sorti de son ministère, au-delà de la Seine, et il atteignait à peine la place de l'Opéra. Les femmes, lorsqu'elles l'apercevaient, surprises de sa petite taille épaisse, de sa tête énorme, ronde, coiffée d'un reluisant chapeau de soie, souriaient de ses prétentions. Employé à 200 francs par mois, il n'aurait pu se divertir beaucoup si, de là-bas, de Nézignan-l'Évêque, la vieille cité de l'Hérault où il était né, sa mère ne lui eût envoyé tous les mois une somme égale à celle de ses appointements. Bien qu'âgé de 30 ans, il n'avait pas perdu le goût, depuis 8 ans qu'il habitait Paris, des amourettes de rencontres à la mode de sa province. Sur le boulevard des Italiens, un magasin de joaillerie attirait les badauds. Dans la vitrine, des feux tournaient, ainsi que des miroirs à alouettes, allumant l'éclat des bijoux et des diamants faux sur des étagères blanches. Parmi les badauds, Sébastien remarqua une jeune fille forte, bien moulée de partout, qui le dépassait de la tête. Elle était d'une blonde rose, avec des yeux bleus, une bouche charnue, qui, sans le savoir, souriait. Un nez droit, des joues pleines et d'un sang si délicat qu'un baiser y devait longtemps laisser son empreinte. Sébastien, si brave d'habitude, hésitait devant cette inconnue dont la mise indiquait une ouvrière. Elle allait partir lorsque, sur un ton d'amitié, il interpella. « Je parie que vous seriez embarrassé de choisir. »«
C'est vrai, monsieur, » répondit-elle, point du tout offensée. « Mais tout cela n'est pas pour moi. »
Elle partait son parapluie à la main. Avide, il la suivit.
« Où allez-vous ? » lui demanda-t-elle, tandis qu'il tournait dans la rue Lafitte.
« Ma foi, je n'en sais rien. Et vous ?»«
Je vais à Montmartre, très haut, rue Lepic. »«
Suis-je indiscret de vous accompagner, ne serait-ce qu'un quart d'heure ?» Sur le trottoir, il s'insinuait dans elle tant qu'il pouvait. À chaque minute, des passants, brutaux et indolents, les séparaient. Quelques-uns s'arrêtaient avec une curiosité sensuelle pour guetter cette femme qu'ils devinaient libre, en compagnie d'un courtisan de la rue. Sébastien, déjà, craignait de la perdre. Il la saisit d'un élan.
« Vous vivez donc seul ? » lui demanda-t-il.
« Oui.
Si vous vouliez, je ne suis pas très très riche, mais j'ai de quoi vous rendre heureuse.
Quelle garantie me donnez-vous ?
« Je possède quelques rentes. J'occupe dans un ministère un emploi assez bien rétribué. En province, très loin, j'ai ma mère qui me laisse vivre ici à mon gré. »«
Quelle chance !
Et vous, vous n'avez point de parents ?»«
Si, dans le Nord, ils sont des mineurs condamnés à la misère. À cause de cela, je les ai quittés. J'ai trouvé rue Saint-Honoré, chez une maudite, assez de ressources pour ne pas rouler au ruisseau. »
« C'est bien, très bien !»
Il la pressa contre lui avec une ferveur généreuse. Elle, émue de sa propre confession, frissonna d'espérance une seconde fois.
« Je ne connais pas encore votre nom, » demanda-t-il.
« Mathilde Baudry.
Et vos parents ne vous ont jamais recherché ?»«
Mes parents ? Je vous raconterai mon histoire plus tard. » »«
Alors, nous nous reverrons ?»«
Oui, si vous ne vous moquez pas de moi. »
Ils avaient gravi sans hâte, du même pas allongé, la rue des Martyrs. Sur le boulevard de Clichy, dans le gai bruissement de Montmartre, ils connurent, plus familiers au milieu du peuple, une volupté plus profonde de savourer, lui, son rêve d'amour, elle, son rêve de fortune. De loin en loin, les lumières des cafés, trop vives, les troublaient dans leurs pensées. Sur la côte âpre de la butte, Sébastien ralentit le pas de nouveau, en serrant plus fort le bras de sa compagne, qui, habile à le conquérir, obéissait sans résistance. Au-delà de la rue des Abbesses, devant la première maison de la rue Lepic, laquelle alors tourne lestement vers le sommet de la colline, Mathilde s'arrêta.
« Séparons-nous, dit-elle, c'est ici que j'habite. »
« Bien, je connais au moins votre adresse. Voici la mienne. » D'un élégant carnet à plaque d'ivoire, il retira sa carte et timidement la lui remit. « Au revoir, Mathilde. Permettez que je vous embrasse. » « Non !» Soudain, elle le salua d'un mot, puis s'élança vers sa maison mal éclairée. Dans cette maison d'ouvriers, le silence y régnait, favorable à l'esprit de province, à ses douceurs de voisinage. Mathilde, avant de monter chez elle, fit la causette avec sa concierge, une veuve acariâtre, chargée de graisse, qui prétendait mener à la férule tout son monde. Elle lui raconta, selon l'habitude, les cancans de la journée à son atelier, les péripéties de son aller et retour à travers Paris. La concierge, assez incrédule sur les vertus de l'enfant, lui prédit une fois de plus que ses appâts, un de ses soirs, lui vaudraient quelque miracle. Mathilde monta dans sa chambre, si propre, dont la fenêtre, drapée de rideaux rougeâtres, donnait sur le large espace des deux rues. Un lit de cuivre occupait, presque à lui seul, l'alcôve, une table reposée sur une carpette, au milieu du carreau rouge et bien ciré, une tenture, fixée à la cloison de l'alcôve et au mur, près de la glace, cachait la porte, là-bas, au fond de la garde-robe, et protégeait des bruits de l'escalier le cœur de la chambre. Mathilde éclaira tout de suite sa lampe dorée, si discrète sous l'abat-jour, qui avait la transparence des ailes d'un papillon de pourpre. Ensuite, après s'être dévêtue, elle procéda à son ménage, aux apprêts de son repas, un reste de fricandeau, un œuf, du fromage. Elle se divertit du murmure de ses souvenirs et de ses songes, qui, depuis 8 mois, voletaient entre les murs plus agréables de son logis. Le monsieur qu'elle avait rencontré ce soir, et dont elle inscrivit le nom, Sébastien Lampéric, sur son carnet de dépenses pour ne pas l'oublier, lui paraissait honnête, vraiment touché par l'amour. Seulement, n'exagérait-il pas, même de bonne foi, la valeur de sa fortune? En outre, pouvait-il, autrement que par le mariage, lui assurer sa libération définitive de la misère? Et du mariage, du moins à cette heure, Mathilde ne voulait pas. Pourquoi s'enchaînerait-elle au sort d'un homme avant d'avoir apprécié la docilité de son caractère? Pourquoi s'interdirait-elle, en pleine saison d'espérance, la possibilité d'améliorer encore, par un second miracle, son ascension vers le bonheur des bourgeois? Mathilde Baudry était la cadette d'une famille de 11 enfants, tous résidant à Anzin, péri sinistre de mines et de forges. Sous le toit bas d'une maison poisseuse, où sa famille grouillait ensemble, mangeant sur des tables mal nettoyées, couchant sur des grabats rarement purifiés, Mathilde, qui avait le goût de la beauté, de la fraîcheur, sur son corps et ses habits, s'effraya, un jour, des laideurs et des privations qui entravaient ses convoitises croissantes de la vie. Durant ses heures de travail monotone, à la mine, dans le hangar de triage, où les blocs de charbon roulent aussi tumultueux que les rocailles d'un torrent, elle comprit l'impuissance où elle serait bientôt de préserver son corps des atteintes du péché, qui, en la déshonorant, eût épuisé vite ses charmes. Et un jour, elle partit de sa maison, non pour une grande cité dont la misère vorace hante les faubourgs, mais pour la ville du paradis terrestre, Paris. Elle allégeait ainsi les charges de son père, lequel espérait que Mathilde, au milieu de son bonheur, ne l'oublierait pas. Ensuite, elle échappait aux obsessions d'un camarade d'enfance, Pierre Virazel, trop pauvre, trop attentif à ses éveils de femme en liberté. Elle avait vu en lui de la grâce parce que, maçon de son état, portant sur sa blouse, sur son chapeau de feutre, du plâtre et de la chaux, il semblait, Pierrot robuste, émancipé lui-même de la malpropreté de leurs semblables, parmi les nuages de fumée dont la suie recouvre tous les sentiers d'Anzin, les maisons, le dos ensoleillé des collines. C'est lui qu'elle écoutait le plus volontiers pour jacasser et rire sur le pas de sa porte dans la boue du coron. C'est à lui qu'elle cédait le plus souvent pour aller boire au cabaret du Genièvre ou de la bière. Lorsqu'elle se fut envolée de leur coin de Flandre, Pierre se montra seul à la regretter. Il lui écrivit à plusieurs reprises, avec colère, avec supplication. Il la menaça de venir à Paris au risque d'y crever la faim, l'arracher aux démons de la luxure qui dévorerait sitôt la beauté de son être. Mathilde finit par redouter les menaces de Pierre. Afin de dépister ses recherches, elle changea d'adresse, quittant le centre de Paris pour aller sur la butte à Montmartre. Là, désormais, elle ferma sa pensée du côté des siens et de sa patrie. Puisque pour conquérir l'indépendance et la fortune, elle en avait à compter que sur sa divination et sa sagesse, elle résolut de ne jamais céder aux caprices de son cœur et de n'accorder la cueillette de son corps qu'à un amoureux pourvu d'argent. La frêle lueur de la lampe réveillait gaiement autour d'elle tout son bien, des fleurs en papier, des images de journaux, les ustensiles du ménage dans un coin de l'évier, un bien dont elle n'eût tiré aucun bénéfice si elle avait essayé de le vendre. Son corps vierge, au contraire, était hors de prix. Pendant une semaine, elle s'ingénia, le soir, dès qu'ils se rencontraient près de la Madeleine, à tourmenter Sébastien de railleries ou de rebuffades. Un soir, elle lui signifia sèchement qu'il l'agaçait avec ses vantardises de méridional. Celui-ci protesta qu'une fortune ne se démontrait pas au milieu de la rue et qu'elle devrait croire à sa loyauté, de même qu'il croyait à son honnêteté de jolie femme isolée dans Paris. Le lendemain, il pleuvait. Dans le crépuscule, tandis qu'ils marchaient ensemble sous le parapluie de Sébastien, elle le gourmanda. « Et ce mariage, tu ne sauras donc pas l'imposer à ta mère ? Comment t'arrangerais-tu, toi, pour lui arracher la libre disposition de nos biens ?»« Enfin, dépêche-toi, sinon il n'en manque pas qui me courtise. »« Ceux-là font des promesses en l'air, moi je dis la vérité. »« Oui, il me semble, c'est pourquoi je patiente. » « Et puis, tu me plais !» Elle le serrait en marchant contre sa poitrine tiède. Et lui, avec reconnaissance, les larmes aux yeux, souriait. Au moment de leur séparation, elle s'inclina vers son geste suppliant de chaque soir et, sous le parapluie, se laissant embrasser les joues. Premier baiser, presque chasse, dont il frissonna par tous ses membres. Elle aussi, peut-être, en le voyant si heureux. Si Mathilde avait eu l'élan de se dévouer, c'était surtout parce qu'une peine d'argent la torturait. Elle avait failli solliciter de Sébastien un emprunt. Mais pour ne rien engager de sa volonté, elle s'était contenue. Dans sa chambre, elle pleura. Pourtant, elle avait connu d'autres misères lorsqu'avec 3 sous de pain par jour, elle cherchait un emploi dans Paris. Devant son tiroir vide, elle demeura longuement accoudée sur les bords de la table. Quelle humiliation, une fois de plus, d'aller chez la concierge révéler son dénuement. Mathilde devait 4 mois de loyer. On savait dans le quartier que si la maison de M. Jaume était bien tenue, celui-ci, en revanche, ne transigeait pas sur les négligences de ses locataires. De très bonne heure, le lendemain, Mathilde descendit dans la loge. Elle s'était peignée, ornée d'une candeur de demoiselle souffrante pour mieux inspirer la sympathie. Madame Gobert, comme tous les gens du peuple investis de quelque autorité, malmenait sans façon ses semblables dans la gêne. Quoique ce fût le 8, jour des quittances, elle dormassait encore dans son lit, ventrue, tassée sous un édredon, derrière ses rideaux blancs. « Qui est là ? » gronda-t-elle. « C'est moi, Mathilde Baudry. Je voudrais... »« Me payer 4 mois, vous savez, c'est beaucoup. »« C'est trop !» « Je n'ai pu ramasser toute la somme. »« Vous en avez au moins une partie ?» Madame Gobert, de ses bras nus, aussi puissant que des jambes, écartait les rideaux. Elle souleva son buste mou, dont une camisole enfermait le fardeau, et fixant de ses yeux verts, fripés par l'abus de l'alcool et du sommeil, la jeune fille qui, son cabas à la main, n'osait s'asseoir, elle reprit « Que pouvez-vous me remettre ?»«
Rien, hélas !»«
Rien ?» Alors vous croyez qu'on garde des locataires comme ça ?
Monsieur Jaume est riche.
Ceux qui vous accompagnent ici le soir ?
C'est toujours le même.
Il n'a donc pas le sou, lui aussi ? Moi, je ne puis rien dans votre embarras. Il faut que ce soir, vous me remettiez quelque chose.
Si j'allais voir Monsieur Jaume ?
À votre aise. Il demeure à Saint-Mandé. D'ailleurs, vous savez son adresse. Si vous n'êtes pas sotte, vous réussirez peut-être. Mathilde feignit de ne pas comprendre quelles conditions d'infamie M. Jaume exigerait en paiement de ses quittances. Tandis que Mme Gobert se recouchait derrière ses rideaux, elle sortit discrètement sur la pointe des pieds. Elle prit le métro, puis à la barrière de Vincennes, le tram électrique qu'elle abandonna au coin de la Tourelle pour se rendre dans le bois où, non loin de la gare, derrière la mairie de Saint-Mandé, M. Jaume occupait un pavillon entre cour et jardin. Elle marchait vite, avec l'impatience d'aborder le bourgeois de qui dépendait la sécurité de son logis. Des brumes épaisses imprégnaient son corps éperdu, frémissant d'une fièvre. Sur l'avenue circulaire qui borde le bois, personne ne passait. Les pavillons s'éveillaient à peine, presque tous avaient leurs volets clos. Au numéro 10, après une hésitation, elle sonna. C'était une courette sablée dont les buis, jusqu'à mi-hauteur, tapissaient la grille. Une maison menue, à un seul étage, timide, entre deux villas d'importance. Mathilde sonna de nouveau, juste au moment où, au-dessus du perron, la porte s'ouvrait sans bruit. Elle avait levé les yeux, son visage rougi par la fraîcheur des brumes, elle épiait humblement le bourgeois Pateau, qui, descendant lui ouvrir la grille, l'observait tous les deux pas avec une complaisance narquoise. « Sapristi ! » s'écria-t-il de sa voix grasseyante de faubourien. « Qu'est-ce qu'il y a de si bonheur ?»«
Je suis une de vos locataires de la rue Lepic. Je viens vous parler de mon loyer. »«
Ah ah ! C'est aujourd'hui le 8 !» Monsieur Jaume se gratta la tête, si massive, mal ordonnée, grisonnante, et, après une minute de réflexion, il ajouta « Suivez-moi !» Célibataire d'une cinquantaine d'années, Monsieur Jaume avait, dans son métier d'entrepreneur, gagné une fortune de 300 000 francs. Il vivotait chichement, seul, aidé d'une vieille servante qui, 2 heures par jour, nettoyait le gros de la maison. Retiré du monde, il n'y rentrait que pour assouvir, de temps à autre, l'appétit de ses sens. Ayant les ruses et la patience de l'animal en chasse, il méprisait les rêves, la poésie de l'amour. Gras et musclé, les oreilles en éventail, il surmontait quelquefois le dégoût de certaines épouses, des jeunes filles qui, par nécessité, avaient à implorer ses grâces de rentier. Dans la salle à manger, modeste et propre, Mathilde, assise en face de lui, tressaillait d'angoisse. L'odeur des habits vieux, imprégnés de sueur et de poussière qu'il portait chaque jour, lui répugnait. Monsieur Jaume cessa de l'examiner. Il trempa dans son bol de café au lait des tranches de pain et, tandis qu'il ruminait longuement de ses mâchoires inondées, il demanda « Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?»«
Je m'appelle Mathilde Baudry. Je dois 4 mois.
4 ?
Monsieur Jaume, pour vider son bol, l'avait prise entre ses deux mains qui étaient terreuses, velues, des mains de manœuvre. Soudain, avec un fracas de sa chaise heurtée sur le parquet, il se rapprocha de Mathilde et, riant gras, lui dit
« Que gagnez-vous à votre atelier ?
5 francs par jour.
Avec ça, vous êtes condamné au trimard à perpétuité. Je peux, moi, vous protéger. »
Il s'insinuait, plus hardi, vers le visage de Mathilde, qui exhalait le feu de tout son corps, et de nouveau il supplia, non sans tendresse,
« Si vous vouliez, votre compte serait vite réglé. »«
Laissez-moi, parce que je suis venu seul ici, sans défense, parler honnêtement à un honnête homme, vous abusez ?»«
Non, bredouilla-t-il, déconcerté par tant de dignité chez une demoiselle. » « Je n'aurais pas cru vous offenser. Quel lâche ne serais-je pas si je vous forçais à... Vous comprenez. Autrement, si vous vouliez, ce serait vite bâclé. »
Mathilde, le voyant défaillir, souriait en dessous de l'ingéniosité vulgaire qu'il apportait dans ses convoitises. Il s'humilia un peu. Puis une générosité de bourgeois, riche et considéré, lui vint au sang. Il dandina son buste large et effleura d'une caresse le menton de Mathilde.
« Joli brin de fille qui flatte ma maison » s'écria-t-il. « Je vous garde. Vous aurez par conséquent réussi dans votre démarche. Moi, pas. Seulement, on se connaît mieux. »
« Je vous remercie, » dit-elle. « Alors vous m'accorderez le délai d'un mois ?»«
Ce que vous voudrez. »
D'un sursaut, elle se leva devant lui, illuminant la maison morne de la lumière de sa beauté. Il se frottait les mains chaleureusement, avec la satisfaction d'avoir consenti un important sacrifice et avec l'espérance d'en être plus tard récompensé. Il la suivit, en ami paternel, sans oser la toucher.
Dès que la porte de la grille fut ouverte, elle s'envola, gamine, par l'allée solitaire. À la route, qui, sortant du bois, se dirige vers la place de la gare, elle se détourna une seconde pour saluer M. Jaume. Puis, riant de tout son corps, elle disparut.